C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Igor Strauss.
Les gens ne savaient rien de cet animal. Mais il y a eu tout un travail de sensibilisation à Austin. Et les dirigeants comme les habitants de la ville ont enfin réalisé que les chauves-souris font beaucoup pour nous. Elles nous débarrassent de tas d'insectes. Elles sont vraiment fascinantes et cruciales pour l'agriculture. Des études ont montré qu'aux États-Unis, les chauves-souris épargnent à l'agriculture au minimum 3,7 milliards de dollars par an en pesticides et en pertes de culture.
Terrifiante pour les uns, fascinante pour les autres, les chauves-souris sont essentielles pour l'environnement, notamment parce qu'elles dévorent les insectes qui ravagent l'agriculture. Mais avec la destruction de leur habitat, la création de parcs éoliens et le terrible syndrome du nez blanc, une maladie qui a tué près de 7 millions de chauves-souris aux États-Unis, eh bien certaines espèces sont en voie de disparition. Au Texas, la sauvegarde des chauves-souris, c'est un reportage de Cerise Maréchaux à suivre dans la seconde partie de cette émission. Mais tout d'abord, économie avec ce chiffre hallucinant. 69 milliards d'euros, c'est le coût minimal annuel des dégâts provoqués par les insectes envahissants dans le monde. Franck Courchamp, directeur de recherche au CNRS, qui a mené cette étude avec une équipe internationale de chercheurs, nous détaillera l'ampleur des dégâts. Et puis, innovation avec une bonne nouvelle. Ça s'appelle Regenbox. C'est un régénérateur de piles qui sera bientôt proposé en open source. Un bon moyen de faire des économies tout en évitant de polluer, à condition d'être un peu bricoleur. L'ingénieur Cédric Carl nous dira tout dans quelques instants. Bonjour à tous et bienvenue dans C'est pas du vent.
C'est pas du vent sur RFI.
69 milliards d'euros par an au minimum, c'est le coût des dégâts provoqués par certains insectes dans le monde, selon une étude parue dans la revue Nature Communication le 4 octobre dernier. Franck Courchamp, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche CNRS au laboratoire Écologie Systématique et Évolution. Vous étiez à la tête de l'équipe internationale de chercheurs qui a réalisé cette étude. Alors ce chiffre 69 milliards est énorme, mais certainement sous-évalué selon votre étude. Comment êtes-vous parvenu à cette estimation et pourquoi est-ce une estimation basse ?
Alors, comment est-ce qu'on est parvenu à cette estimation ? En fait, on a travaillé sur la littérature scientifique qui existe déjà. On a été chercher tous les articles, livres, rapports qui ont été publiés. Donc, il y en avait pas loin de 750 qui avaient déjà étudié des coûts économiques de différents insectes envahissants dans différentes parties du monde et sur différents types d'impacts. Ce chiffre qu'on a obtenu global est grandement sous-évalué du fait de trois types d'incertitudes que l'on a. La première source d'incertitude, c'est le nombre d'études qui est très inégal entre l'Amérique du Nord, l'Europe et le reste du monde. Il y a beaucoup plus d'études en Amérique du Nord, et puisqu'il y a beaucoup plus d'études, il y a beaucoup plus de chiffres qui ont été rapportés, et donc la somme finale est plus importante. Ce type de biais-là, il est assez facile de le corriger. Il suffit d'extrapoler si on avait autant d'études en Europe, en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie, en Océanie, qu'on en a en Amérique du Nord, alors on peut avoir l'extrapolation du chiffre global. Dans ce cas-là, le coût global serait de 270 milliards de dollars par an pour les insectes envahissants dans le monde.
Alors justement, comment avez-vous sélectionné les insectes à étudier et quels sont les insectes les plus destructeurs ?
Alors en fait, on n'a pas vraiment sélectionné des espèces d'insectes à étudier. On a essayé de regarder tous les insectes pour lesquels des coûts avaient déjà été reportés. Et on est tombé sur entre 60 et 70 insectes différents. Et dans tous ces insectes, il y en a une dizaine parmi lesquels les coûts sont vraiment plus importants que les autres.
Alors, il y a par exemple le termite de Formose, qui a une histoire assez intéressante. Est-ce que vous pouvez nous la raconter ?
Alors, le termite a été introduit aux États-Unis lorsque les GI sont revenus avec leur matériel d'Asie et qu'ils ont importé comme ça des termites qui étaient dans le bois qu'ils rapportaient. C'est maintenant un termite qui est bien implanté dans certains états des États-Unis, notamment en Louisiane. Et c'est un insecte qui coûte énormément parce qu'il s'attaque aux structures, aux infrastructures en général où il y a du bois, puisque c'est un insecte qui mange la pulpe de bois. Donc il coûte énormément à la fois en réparation, en traitement préventif, en assurance, mais il coûte aussi beaucoup en termes de dévaluation de l'immobilier lorsque des régions sont infestées par le termite. Évidemment, les terrains valent beaucoup moins.
Alors les dégâts sont considérables, aussi bien sur les biens et services, les coûts en santé et les pertes en agriculture. Quel est le secteur le plus touché ?
Pour les chiffres que l'on a, les secteurs les plus touchés sont la sylviculture, c'est-à-dire la foresterie, l'exploitation des forêts, l'agriculture et les infrastructures dont j'ai parlé pour le termite, puisque à lui seul, le termite pourrait coûter jusqu'à 27 milliards d'euros par an. La santé est aussi un secteur assez lourdement touché. On a un chiffre de près de 7 milliards d'euros, mais évidemment, on ne peut pas compter uniquement en euros lorsqu'il s'agit de la santé, donc il y a un coût humain qui est très important. Il faut ajouter à cela des secteurs économiques pour lesquels on n'a aucun coût, parce que ces évaluations sont difficiles à faire. Par exemple, les pertes sur la biodiversité. Lorsqu'une espèce d'insecte est envahissante, souvent elle va tuer tous les autres insectes locaux ou d'autres espèces. Et ça, c'est un coût qu'on n'arrive pas bien à évaluer. Ou les pertes sur les services des écosystèmes, comme par exemple la pollinisation.
Et vous rappelez également dans cette étude que les insectes consomment 40% des biens de consommation, soit l'équivalent de ce qui pourrait nourrir 1 milliard d'êtres humains. C'est considérable. Comment expliquez-vous qu'il y ait si peu de documentation concernant un continent comme l'Afrique ?
Alors c'est relativement simple, hein, il y a une corrélation très forte entre le nombre d'études et l'effort qui est mis dans la recherche dans les différentes régions. Il y a plus de chercheurs en Amérique du Nord, il y en a un petit peu moins en Europe et il y en a encore moins dans d'autres parties du monde. C'est malheureusement uniquement une considération économique.
Concrètement, comment éviter de tels dégâts ? On ne peut pas évidemment éradiquer tous les insectes de la planète. Quelles seraient les solutions ?
Alors, on ne peut pas éradiquer tous les insectes de la planète et ce serait évidemment pas quelque chose de souhaitable non plus puisque les insectes ont un rôle très important écologique et puis au-delà de ça, ils ont une valeur pour eux-mêmes. Il n'y a pas de raison spécialement d'éradiquer des espèces si elles n'ont pas de rôle pour l'humanité. Le problème, c'est que même les insectes envahissants sont particulièrement difficiles à éradiquer une fois qu'ils ont établi une invasion. La solution, elle réside dans le fait d'empêcher ces invasions. Il y a toute une série de protocoles qui s'appellent la biosécurité, qui sont très bien mis en place en Nouvelle-Zélande, en Australie depuis des décennies, et qui consistent à surveiller les points à risque d'import, notamment les ports et les aéroports, surveiller les cargaisons à risque, essayer d'éviter que certaines espèces soient introduites par le biais de cargaisons de bois, de plantes par exemple, ou de cargaisons agricoles. De surveiller ensuite autour de ces zones à risque pour essayer de repérer rapidement les nouveaux points d'invasion, pour pouvoir éradiquer très rapidement ces zones lorsqu'elles sont encore suffisamment petites. Parce que une fois que ces espèces sont établies sur des grandes surfaces, alors la seule solution, c'est de les contrôler dans le long terme et de subir les dégâts, le coût économique. Et ça, c'est beaucoup, beaucoup plus cher que ces protocoles de biosécurité, de surveillance et de contrôle rapide.
C'est la plus grande vigilance que vous souhaitez, évidemment. Vous pensez qu'on peut, voilà, justement, à moindre coût, parvenir à sauver des milliards en définitive ?
Oui, en fait, c'est une très grosse économie qui peut être faite ici. On sait déjà, par exemple, pour la santé, comparer les coûts en termes de prévention et les coûts en termes de guérison, on va dire. Guérir, c'est toujours plus difficile que de prévenir. On sait que c'est un coût qui est 10 fois plus grand lorsque on subit les dégâts et on essaie de contrôler à long terme une espèce qui est envahissante que de mettre en place des protocoles de réaction rapide pour empêcher ces invasions.
Eh bien, merci infiniment, Franck Courchamp. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche au CNRS et que vous venez de publier dans la revue Nature Communication une étude sur les dégâts provoqués par l'invasion des insectes. Merci beaucoup.
Merci.
Du vent. le magazine de l'environnement sur RFI. Pour nous écrire, c'est pas du vent, @rfi.fr.
Ça s'appelle RegenBox, c'est un régénérateur de piles qui sera bientôt proposé en libre accès. Un bon moyen de faire des économies tout en évitant de polluer. L'occasion également de rappeler que les inventions du passé permettent aujourd'hui d'entrevoir un avenir radieux. Bonjour Cédric Carle.
Bonjour.
Alors vous êtes chercheur en design d'utilité publique, c'est le terme exact ? Qu'est-ce que c'est donc que ça ?
Ouais, c'est un peu un terme qu'on utilise parce que finalement, nous, ce qui nous intéresse dans la conception et dans l'innovation, c'est de faire des choses qui soient pour le bien commun et qui soient utiles pour les gens et qui émancipent plutôt que qui essayent de vendre des objets obsolescents.
Alors, on va évidemment parler de ce régénérateur de piles, mais tout d'abord, une précision. Vous avez développé le concept de paléo-énergétique. De quoi s'agit-il ?
Alors, paléo-énergétique, ça vient justement du fait qu'on cherche depuis une quinzaine d'années avec tout plein d'ingénieurs et de chercheurs sur la question de l'innovation énergétique. Donc, à savoir cette innovation qui peut répondre à nos problèmes d'énergie, qui sont liés à des conflits dans le monde, qui sont liés à la précarité dans les pays européens, puisqu'il y a des gens qui n'arrivent plus à payer les factures aujourd'hui et ça ne va pas s'arranger demain. Et donc, nous, on essaye de chercher depuis pas mal d'années et on s'est aperçu qu'il manquait une base de données qui soit large et qui soit dans le temps et qui présente toutes les innovations énergétiques. Et on s'est dit, nous, on n'y arrivera pas tout seul. Donc, on va monter une sorte de Wikipédia de l'histoire de l'énergie et c'est les gens qui vont nous envoyer les inventions. Et c'est ce qui se passe depuis un an et demi. On reçoit plein d'inventions complètement folles de plein de petits chercheurs qui n'ont des fois pas eu leur heure de gloire.
Et parfois, des inventions très anciennes. Vous trouvez justement qu'on ne se sert pas assez des découvertes passées ?
Complètement. Il y a plein de raisons pour lesquelles une invention ne fonctionne pas. Ça peut être des fois des chercheurs un peu trop fous. Ça peut être que ce n'est pas le bon moment pour une innovation parce que c'est pas le bon prix ou il n'y a pas la bonne technologie. Il y a des fois aussi des histoires un peu de lobby industriel qui mettent de côté certaines technologies énergétiques parce que ça les dérange et ça ne les arrange pas. Donc finalement, il y a plein d'histoires de petits inventeurs un peu partout dans le monde. Hein. Il n'y a pas qu'en France. Qui ont fait des choses intéressantes, mais qui n'ont pas eu leur heure de gloire. Du coup, nous, on est là pour les exhumer et pour les réactiver, ces inventions.
L'idée, c'est qu'en rapprochant science et technique, on peut accélérer la transition énergétique. C'est ça le fond de la chose ?
Alors, complètement. Nous, notre discours, c'est qu'on fait face à des enjeux qui sont climatiques aujourd'hui, qui ne rigolent plus, hein. Là, ça commence, le climat s'emballe.
On en parle souvent dans cette émission.
J'imagine. On est face à des histoires énergétiques qui sont liées à des conflits mondiaux. Et ça rigole pas. Ça fait aussi ce qu'on voit, en fait, des migrations, etc., qui sont pas drôles à gérer, ni depuis les gens qui migrent, ni depuis les gens qui accueillent. Et finalement, ce qu'on sait, c'est qu'il faut faire cette transition énergétique le plus rapidement possible. C'est en faisant des choses partagées qu'on va pouvoir en fait faire face à cette transition énergétique et l'accélérer. Parce que c'est pas en faisant des brevets avec des innovations un peu trop pointues européennes ou occidentales qu'on va essayer de massifier en 20, 30 ans pour tout le monde que ça fonctionnera. Et nous, ce qu'on dit, c'est que dans le passé, il y a des brevets qui sont dans le domaine public et il y en a plein. Ces brevets n'intéressent pas les industriels, c'est leur problème. Par contre, nous, acteurs de la transition énergétique, et facilitateurs de la transition énergétique, ça nous intéresse parce qu'il y a des très bonnes idées qu'on peut du coup partager puisqu'elles sont dans le domaine public.
Alors justement, vous avez lancé une campagne de financement participatif pour développer le RegenBox, donc un régénérateur de piles, car oui, même les piles dites à usage unique peuvent se recharger. Alors de quel inventeur est-ce que vous vous êtes inspiré et comment ça marche très concrètement ?
Alors, c'est bien sûr un ingénieur qui nous a envoyé cette invention, qui n'est pas la sienne, puisque c'est Karl Kordesch, un génie de la pile alcaline et des batteries en général, parce que c'est le monsieur qui a conçu les piles pour la mission Apollo sur la Lune.
Rien
à
que
l'époque.
Ça.
Donc voilà, c'est un peu the master of battery, en fait, à l'époque, aux États-Unis. Et donc ce monsieur sort dans les années 80 avec une marque qui s'appelle Rayovac, des piles alcalines et un chargeur de batterie. Donc on a mis ça sur le site. Vous avez la publicité de l'époque, des années 80, qui montre une marque de pile alcaline qui se recharge 25 fois. Et on est même allé jusqu'à acheter le régénérateur de pile alcaline qu'on a trouvé sur eBay, en fait, d'occasion. Donc on l'a acheté parce que ça fait partie de nos pièces à conviction. Et finalement, cet ingénieur, il a observé ça, il a vu que le projet était dans le domaine public, il a vu qu'historiquement, il y avait plusieurs régénérateurs de piles alcalines qui ont existé, mais qui n'ont jamais été fiables, je dirais. Lui, il a décidé de reprendre le brevet d'origine et de le passer dans le domaine public en open source avec nous.
Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, des piles dites à usage unique peuvent se recharger. Ça, c'est intéressant pour dépolluer et arrêter de consommer à outrance.
C'est ça. Rien qu'en France, on est à 33 000 tonnes de piles alcalines produites chaque année, dont seulement à peu près 30% va dans la filière recyclage. Et dans le monde, en fait, les piles alcalines coûtent cher par rapport au pouvoir d'achat, d'une manière générale, et on n'a aucun point de comparaison entre deux piles alcalines, entre deux marques. Celle-ci coûte tant et il y a tant d'énergie à l'intérieur, mais comment est-ce qu'on compare? Et ce qu'on va faire, en fait, avec le projet Regenbox, dans sa première version, parce que la version de régénérateur, elle est déjà au point. Le régénérateur, il existe depuis les années 80. Donc, nous, on n'a fait que reprendre un peu d'électronique. Hein, ça coûte 5 euros d'électronique, même pas. Et on va permettre aux gens de se le fabriquer. Et là, dans la première phase, on a aggloméré des testeurs. Et en fait, chacun va tester une marque de pile. Comme ça, on va savoir et on va pouvoir comparer les piles, déjà dans ce qu'elles ont de contenu énergétique. Et en plus, si elles sont régénérables ou pas.
C'est ça, l'objectif de cette campagne de financement participatif est de lever des fonds, 9 500 euros, je crois, c'est ça?
C'est ça.
Mais également de trouver des bêta-testeurs. Qu'est-ce qu'un bêta-testeur? Quel sera son rôle, très, très concrètement? C'est de tester les piles, tout simplement?
En fait, sur la campagne participative, vous pouvez soit déjà précommander une Regenbox dans sa version finale, avec un tout petit peu d'électronique, soit commander la version avec Arduino. Arduino, c'est un microcontrôleur, c'est une sorte de tout petit ordinateur qui est en open source.
Donc qui est en libre d'accès.
Qui est en libre accès, exactement. Et qui va permettre de automatiser la charge et la décharge des batteries. En fait, on va faire un test. On va tester la batterie en décharge et en recharge, et en décharge et en recharge, pour voir sa capacité à être régénérée.
Et en low charge, c'est ça, pour ne pas abîmer les composants.
Alors, le principe de la régénération, c'est qu'on fait des charges lentes. On fait des micro-impulsions pour ne pas forcer la batterie, parce qu'en fait, quand on force une batterie à la recharge, que ce soit sur les batteries de voiture ou sur les batteries classiques, on obtient de l'usure, en fait, et ça réduit la durée de vie de la batterie.
Alors, est-ce que c'est difficile de fabriquer un régénérateur de piles? Est-ce coûteux? Faut-il avoir des compétences particulières en électronique ou je ne sais quoi?
Pour des gens qui veulent juste fabriquer une pile, un régénérateur de piles, ils vont recevoir en fait les composants électroniques, ils vont recevoir la petite carte sur laquelle on soude les composants, et ils vont recevoir en fait des modes d'emploi pour construire en fait le régénérateur. Et après, si eux, ils commandent les composants, ils pourront se le fabriquer eux-mêmes. En gros, on va fournir le mode d'emploi et les premiers composants qui pourront être soit commandés chez nous, soit commandés de manière indépendante.
Vous êtes comme nous, vous avez un intérêt particulier pour l'Afrique. Prenons un auditeur africain, il peut commander facilement justement ces composants?
Complètement, complètement. Hein. C'est de l'électronique vraiment de base. C'est des résistances, des contrôleurs de tension, c'est des choses vraiment très, je dirais, low-tech pour basse technologie. Enfin, c'est de l'électronique accessible.
D'accord. Alors, vous avez récolté près de 4000 euros sur les 9500 espérés. Pour participer, comment fait-on? C'est jusqu'au 20 octobre, je crois.
C'est ça. En fait, on a une campagne participative sur Ulule. Donc Ulule, c'est en fait un système qui permet de cofinancer en fait des projets comme celui-là. Et vous pouvez trouver assez facilement le lien sur regenbox.org. Il y a le lien vers la campagne Ulule. Ça permet voilà, de précommander en fait les systèmes et de les recevoir tout simplement par la poste.
Merci beaucoup Cédric Carle d'être passé dans ce studio pour nous parler du Regenbox, donc un régénérateur de piles qui sera bientôt proposé en libre accès. Bonne journée à tous, restez avec nous chers auditeurs, on se retrouve dans un peu plus de 3 minutes après le Flash Info. C'est pas du vent, à suivre.
Éco d'ici.